Je vous propose de prier simplement pour introduire ce moment dans la continuité de ce culte. Seigneur notre Dieu, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs et de nous rendre réceptifs à ta parole. Merci parce qu'elle est source de vie. Elle a été inspirée, Seigneur. C'est elle qui nous a transformés, c'est elle qui a le pouvoir de nous changer encore aujourd'hui. Et nous voulons y demeurer fidèles. Ouvre nos cœurs, les oreilles de nos cœurs, les yeux de nos cœurs. Illumine nos pensées et que tout soit fait pour ta gloire. Amen. Nous sommes donc le deuxième dimanche de l'Avent. L'Avent qui représente, comme cela a été dit dimanche dernier par Jeff, notre pasteur, l'attente de la venue du Messie. Le Messie, c'était celui qui devait être envoyé par Dieu. Le Messie, c'est l'envoyé. Il devait être envoyé par Dieu selon les prophéties qui avaient été données. On en a vu un certain nombre dimanche dernier dans l'Ancien Testament, durant les siècles et les millénaires qui ont précédé la venue de Jésus-Christ. Il devait être envoyé pour délivrer Israël. Et au fur et à mesure que l'histoire d'Israël se déroule et l'histoire du monde en général, jusqu'à la venue de Christ, il y a une attente qui a augmenté, jusqu'à devenir vraiment fébrile cette attente. Les historiens de l'époque, on a Flavius Joseph qui en parle, mais également même les récits bibliques parlent d'une attente qui était, on était sur le point, on se disait le Messie va arriver, c'est pour très bientôt. Et on le voit à plusieurs endroits dans la Bible. Alors, j'ai pris quand même 2-3 passages. En Luc 2, on le voit ici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit et quand les parents, Marie et Joseph, amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Un peu plus loin, nous avons le témoignage d'Anne. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était d'un âge très avancé, elle n'avait vécu que 7 ans avec son mari après son mariage. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Arrivée elle aussi à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Un autre passage, c'est quand, vous savez, les Israélites viennent voir Jean-Baptiste, qui était le précurseur de Jésus-Christ, et ils s'interrogent. Et nous avons en Luc 3, verset 15, ce qui nous est dit à leur sujet. Le peuple était dans l'attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Il y avait donc cette attente qui était là. Et j'aimerais aborder le sujet de l'attente, ce qu'a fait Jeff, en fait, la semaine dernière, dans cette continuité, mais sous un angle un petit peu différent. J'aimerais que nous puissions nous transporter dans notre imagination au temps d'Israël à cette époque. Jésus est né et il grandit dans un relatif anonymat. Il prend le métier de son père terrestre, Joseph, qui était charpentier. Et pendant environ 30 ans, on n'entend pas vraiment parler de lui. En tout point, il semble quelqu'un de parfaitement ordinaire en dehors, du fait qu'évidemment, il était exceptionnellement intelligent, sage et plein de grâce. Nous le lisons, nous voyons un extrait de son histoire à 12 ans, n'est-ce pas, quand il s'est rendu au temple et que ses parents l'ont cherché partout. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait, les interrogeait, à 12 ans. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Et un peu plus loin, il nous est dit que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et nous savons bien évidemment qu'il n'a jamais commis aucun péché. Et voilà qu'aux environs de 30 ans, il commence son ministère. Ce pourquoi il était venu dans ce monde. Il annonce la venue du royaume de Dieu. Il accomplit des œuvres extraordinaires. Et là, nous nous imaginons, nous, Israélites de l'époque, et nous le voyons dans les évangiles, nous interrogeant. Mais est-ce bien le Messie ? Est-il vraiment arrivé ? L'attente est-elle terminée ? Serait-il le Messie promis? Son père n'est-il pas Joseph, le charpentier? Qu'est-ce qui nous est dit au sujet des prophéties, dans les prophéties au sujet de son père? Le Messie vient-il de Galilée? Et d'autres qui diraient, mais le Messie ferait-il de plus grandes œuvres que celui-ci? Et il y a cette espèce d'incertitude qui s'installe. Et on le voit bien, il y a des gens, face à Jésus, ils prennent position pour lui ou contre lui. Et vous avez certainement vécu ce sentiment-là, quand vous attendez quelque chose de marquant, quelque chose d'important pour vous, vous attendez, et la chose arrive, ou vous rencontrez la personne, ou peu importe, et ça n'arrive pas exactement comme vous l'aviez prévu, voire même pas du tout, et vous êtes dans cette incertitude, est-ce que la chose est bien arrivée? Ou est-ce que j'attends encore? Qu'est-ce que je fais? Et là, à un niveau beaucoup plus important, bien sûr, avec des enjeux extrêmement importants, Jésus-Christ est-il bien le Messie? Car si c'est pas lui, il faut encore que j'attende, mais si c'est bien lui, si c'est bien lui, et que je continue à attendre, que va-t-il se passer pour moi? Alors, si j'attends pas trop longtemps, mais que finalement je viens à lui, peut-être que je me sentirai confus ou honteux, même si lui ne me fera jamais sentir confus ou honteux. Mais si j'attends encore trop longtemps, et que je le laisse passer, s'il est bien le Messie, je serai mis dehors pour ne pas avoir cru en lui. Et c'est normal de se poser ces questions. Et je crois que nous tous qui sommes nés de nouveau aujourd'hui dans cette salle, nous nous sommes posé cette question à un moment donné. Nous avons été mis face à la parole et nous nous sommes posé cette question. Jésus-Christ est-il bien le Messie ou dois-je attendre quelqu'un d'autre? La foi ne naît pas du néant. La foi n'est pas une croyance aveugle en quelqu'un qu'on n'a jamais vu. La foi naît de la parole de Dieu. Elle naît de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et à chacun d'entre nous, le moment venu, Christ nous a posé cette question, et toi, qui dis-tu que je suis? Tu as des attentes, tu as des espoirs, tu as des doutes, tu as des craintes. Es-tu prêt à les placer en moi? Christ s'est placé devant nous et il nous a demandé de prendre position. Pour ou contre lui. Il ne nous a pas laissé l'option d'attendre plus que le temps qu'il nous avait accordé pour nous décider. C'est pourquoi il est capital que nous prenions la bonne décision sans attendre. Dans le texte du jour, on a un homme qui se pose cette question, un homme qui pourtant avait une foi extraordinaire, vraiment, vraiment, et qui a été élevé au-dessus de tous les hommes de la part de Jésus-Christ lui-même. Nous lisons ce texte en Matthieu 11, les versets 2 à 6. Cet homme, c'est Jean-Baptiste. Matthieu 11, chapitre 11, les versets 2 à 6. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander : Es-tu celui qui doit venir ? Ou devons-nous en attendre un autre ? Jésus leur répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Qui était Jean-Baptiste ? Ou Jean le baptiseur. C'était un homme qui était doté vraiment d'une foi absolument extraordinaire. Il était à l'appel de Dieu, il s'est consacré à son ministère, à son appel, annonçant la venue du royaume, prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés, dénonçant l'hypocrisie des religieux de l'époque, le péché des uns et des autres, et annonçant la venue de Christ, le désignant comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ lui-même fait l'éloge de Jean, quelques versets plus loin dans ce texte. Il affirme qu'il est un prophète, et bien plus qu'un prophète. Il dit ceci très exactement : Jean, c'est celui à propos duquel il est écrit : Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer un chemin. Je vous le dis en vérité, Jésus qui parle toujours, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi cette question posée à Jésus-Christ? Es-tu celui qui était promis, ou bien devons-nous en attendre un autre? Pour comprendre, il faut comprendre le contexte. Et le contexte nous est donné dans le verset 2. Dans le verset 2, nous lisons ceci. « Dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. » Jean-Baptiste se trouvait en prison à ce moment-là. Il se trouvait en prison pour avoir dénoncé le péché d'Hérode, qui avait été mis en place par les Romains. Les Romains lui avaient conféré une sorte d'autorité sur les Juifs. Il avait dénoncé le péché d'Hérode, qui avait épousé la femme de son frère, Philippe. Et donc, Hérode l'avait fait mettre en prison. Il lui avait dit que cela ne lui était pas permis. Et là, dans sa prison, Jean s'interroge. Seul, probablement découragé, il se dit, mais si Jésus est vraiment le Messie, s'il est vraiment le Messie, pourquoi est-ce qu'il me laisse croupir en prison? Pourquoi suis-je là, tout seul, ici, alors que je n'ai absolument rien fait de mal? Au contraire, en tout point, j'ai été obéissant, je l'ai annoncé, j'ai fait ce que Dieu m'avait demandé de faire et me voilà en prison. N'est-ce pas injuste? Alors, au bord du désespoir, il envoie deux de ses serviteurs poser cette question à Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Ou bien devons-nous en attendre un autre? J'aimerais, tout comme Élie, que nous ne soyons pas trop durs avec Jean. Jésus ne l'est pas envers lui. Comme tous les personnages de la Bible, il nous est présenté dans sa réalité touchante d'homme de la même nature que nous, avec ses qualités et avec ses défauts, avec sa ferveur et avec ses doutes, un peu comme nous. Ainsi que le dit William MacDonald dans son commentaire de ce passage, je vous le cite, « Comme de nombreux grands serviteurs de Dieu, Jean a connu momentanément un passage à vide dans sa foi. Chacun passe par des périodes où sa foi a besoin d'être confirmée et fortifiée. C'est une chose d'avoir une foi qui défaille momentanément. C'en est une autre de se poser continuellement des questions sur l'identité véritable du Seigneur Jésus. La vie d'un homme a rarement un déroulement monotone et simple. Si nous considérons l'ensemble de la vie de Jean, elle nous apparaît comme faite de fidélité et de persévérance. » Alors, quelle a été la réponse de Jésus-Christ? Nous la lisons au verset 4 et au verset 5. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Il fait référence là à différentes prophéties qui avaient été données dans les siècles précédents au sujet du Messie et de ce qu'il ferait lorsqu'il serait là. Jésus est en train d'accomplir les prophéties. Pourquoi dit-il ce que vous voyez, ce que vous entendez? C'est parce qu'à ce moment même, en fait, dans l'évangile de Luc, il nous est marqué ceci, à ce moment-là, lorsqu'ils ont posé la question à Jésus, « Es-tu bien celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Voici ce que Jésus a fait. Il guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à bien des aveugles. Alors oui, nous avons cru sans voir le Seigneur, ni sans voir aucune des œuvres, d'ailleurs, qu'il a accomplies il y a 2000 ans. Mais notre foi est née car nous avons goûté que le Seigneur est bon. Nous l'avons vu agir dans nos vies. Nous l'avons vu restaurer ce qui était brisé, nettoyer ce qui était sali, ramener à la vie ce qui était mort. Il a donné un sens à ma vie. Il m'a donné une espérance sûre et solide et qui va bien au-delà de tout ce que ce monde peut m'offrir. Car ne nous y trompons pas, Christ ne nous promet pas monts et merveilles dans ce monde. Tout comme Jean, nous aurons à traverser des temps de prison spirituels. Tout comme Jean, nous aurons à traverser des doutes et des difficultés, des épreuves, de l'impatience, de l'incertitude et des pourquoi, et c'est normal. Mais comme le dit l'apôtre Paul, si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Notre espérance se trouve dans le monde à venir. Mais une question demeure. Toi, qu'attends-tu? Et à ce point de mon message, je voudrais faire quelque chose d'assez inhabituel. Je voudrais demander à tous mes frères et sœurs, là, ici, dans cette pièce, qui sont nés de nouveau, d'intercéder silencieusement dans vos cœurs pour les personnes dont il va être question maintenant. Parce qu'il se trouve peut-être dans cette pièce aujourd'hui quelqu'un qui est aveugle. Oh, ses yeux fonctionnent très bien. Ses yeux fonctionnent très bien. Mais elle ne voit pas la beauté de Christ. Tu as comme des écailles sur les yeux. Tu comprends la parole, mais cela ne produit rien en toi, ni chaud, ni froid. Et tu te demandes, le Seigneur agira-t-il un jour? Suis-je hors de portée de son amour? Mais aujourd'hui, Christ te dit, n'attends plus, car aujourd'hui, les aveugles voient. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui est le jour du salut. Maintenant, viens à moi, te dit-il. Je t'attends et je t'aime et je t'accueille. Mais peut-être se trouve-t-il dans cette salle une personne boiteuse. Oh, ses jambes fonctionnent bien. Elles fonctionnent très bien, ses jambes. Mais elle a clopiné un pas avec Jésus, un pas dans le monde. Un pas avec Jésus, un pas dans le monde. Incapable de se décider, de prendre une décision radicale pour Christ. Et tu as peur de ce que le Seigneur pourrait te demander peut-être, et tu n'oses pas t'avancer plus loin avec lui. Mais Christ te dit, n'attends plus, aujourd'hui les boîtes marchent. Aujourd'hui il t'appelle, ne le laisse pas passer, qu'il sait s'il reviendra. N'hésite plus, saisis sa main. Oui, tu souffriras sans doute pour lui, comme nous tous, mais il sera avec toi. Tu le verras à tes côtés et tu te réjouiras à cause de lui. Parce que tu seras si proche de lui, alors aujourd'hui, lève-toi et marche. Mais peut-être aujourd'hui dans cette salle se trouve quelqu'un qui est malade, un lépreux. Oh, bien sûr, en apparence, il est parfaitement normal. En apparence, tout le monde lui fait des compliments. Il semble si bien sur lui-même. Il a une très bonne réputation. Mais toi, tu sais ce qu'il en est réellement, au fond de toi. Tu sais ce que tu as fait, tu sais ce que tu as dit, tu sais ce que tu vaux. Et tu te sens peut-être sale ou déshonoré, ou malade ou même inutile. Comment ce que tu as fait et ce que tu as dit, comment après tout cela Dieu voudrait-il de toi, alors que tu penses même que l'enfer ne voudrait pas de toi? Mais Christ te dit, n'attends plus, aujourd'hui les lépreux sont purifiés. Aujourd'hui, si tu le reçois, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Il est possible avec Jésus de repartir à zéro. C'est vraiment possible, vraiment possible. Christ est venu appeler des pécheurs à la repentance et non des gens qui se pensent justes ou très bien sur eux-mêmes. Il est venu appeler des gens qui se savent malades et qui savent qu'ils ont besoin d'un docteur. Et il n'y a pas de péché trop grave, de pécheur trop éloigné qui ne pourrait être atteint par l'amour et par la grâce de ce Dieu Tout-Puissant. Tu ne sais pas combien Jésus est un si grand sauveur. Reçois-le maintenant. Mais peut-être se trouve-t-il dans cette salle une personne sourde. Ses oreilles fonctionnent très bien, mais tu refuses obstinément d'écouter. Tu verras plus tard, te dis-tu, demain peut-être, ou l'année prochaine. Mais qui sait ce qui arrivera demain? Seul aujourd'hui t'appartient, et aujourd'hui Christ te dit, n'attends plus, aujourd'hui les sourds entendent. Ne prends pas le risque, pour une journée supplémentaire de plaisir ou de contrôle sur ta vie, de passer une éternité gâchée loin du Seigneur, dans les tourments et la souffrance. Reçois-le aujourd'hui. Et peut-être se trouve-t-il dans cette salle une personne morte à l'intérieur. « Il est trop tard pour moi, dis-tu. J'ai laissé passer ma chance. J'ai prié, mais jamais rien. Jamais rien ne s'est passé, alors pourquoi espérer? Écoute cette parole. Nous la lisons dans Cantique des Cantiques. Sur mon lit pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je veux me lever pour faire le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je veux chercher celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé. Oui, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai attrapé et je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné naissance. Jésus est là, il se tient tout près. Il se tient tout près et il t'aime. Aujourd'hui n'attend plus, aujourd'hui les morts ressuscitent. Quelle est cette bonne nouvelle qui est annoncée aux pauvres? Nous en avons parlé. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination repose aujourd'hui sur ses épaules. On l'appelle admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. C'est Jésus-Christ. Il a été envoyé pour nous sauver de la colère que nous méritions de Dieu, afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions avoir la vie éternelle et la vie éternelle en abondance. Alors, est-ce la fin de l'attente? À vrai dire, non. Mais pour nous tous qui sommes nés de nouveau, ou peut-être pour vous qui avez rencontré le Seigneur aujourd'hui, une nouvelle attente commence. Car ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Aujourd'hui, nous attendons son retour. Et je vous propose de vous lever et je demande à la chanteuse de revenir pour que nous chantions le retour de Jésus-Christ. Amen.